Rassurez-vous.
Alors, on est dans votre bureau. Waouh. Écoutez, Hamadi, oui, je pense qu'on va faire un début de conversation ici.
OK.
Dans votre bureau du quatrième étage de ce musée des civilisations noires, pendant qu'on vous patche.
Vous n'allez pas me mettre à poil quand même comme ça
sous le... Mettre sous l'événement.
Ah ouais, d'accord.
Vous êtes habillé, Hamadi.
Je suis habillé comme un bon indigène.
C'est-à-dire, ça s'appelle comment, ça, ce que vous portez?
Ben, ça s'appelle un boubou.
Vous êtes d'une élégance parfaite.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
En sol majeur, délocalisé pour 24 heures dans un Sénégal en pleine élection présidentielle et qui réalise un des rêves du monde noir, à savoir avoir un espace de célébration de l'estime de soi. Son nom, le Musée des civilisations noires de Dakar, inauguré en décembre 2018 et qui se veut être l'élaboration d'un nouvel humanisme qui comprendra cette fois la totalité des hommes sur la totalité de notre planète Terre. Je cite Senghor, qui en rêvait d'ailleurs de ce musée. Monsieur le Président.
Ce musée des civilisations noires est une préparation au dialogue des cultures qui doit aboutir à la civilisation de l'universel. Mais il faut d'abord dialoguer entre Africains, entre Noirs, dirais-je.
Ce dialogue est orchestré aujourd'hui notamment par le directeur de ce musée, Hamadi Bokoum, directeur du patrimoine culturel du Sénégal de 2001 à 2015, docteur d'État S-Lettres et Sciences Humaines et archéologue de formation, un goûteur d'histoire et de généalogie, issu d'une lignée tout couleur qui m'a donc ouvert les portes de son monde noir et pluriel. Conversation à la bonne franquette avec votre servante et juste un micro à la recherche de Samba Diallo pendant 48 minutes. Car grâce à Gorée Cinéma et son directeur Joe Ramaka, la journée a pu s'incliner aussi devant deux baobabs, celui qui trône bien sûr dans le hall d'entrée, mais surtout Cheikh Hamidou Kane, venu dialoguer avec des étudiants de Dakar autour de l'aventure ambiguë. C'est dire si le musée est déjà dans le dialogue. Vous me faites voir ce bureau avec, je vois, la photo de Macky Sall juste au-dessus de votre fauteuil.
Oui, mais écoutez, c'est le président de la République du Sénégal, c'est la photo
jusqu'à,
officielle.
Jusqu'à la prochaine présidentielle.
Oui, jusqu'à la prochaine, voilà. Donc c'est Monsieur le président de la République du Sénégal qui trône dans tous les établissements publics.
Alors là, je vois accroché à vos murs des plans de cet immense musée des civilisations noires. Mm-hmm. C'est écrit en chinois, c'est normal, hein. C'est les Chinois qui ont financé ce musée.
Mais les Chinois ont financé la totalité de ce musée-là, mais quand même, avec énormément de respect et d'écoute par rapport à nous. Vous voyez que ce musée est circulaire. La tradition chinoise, elle est plutôt rectangulaire ou carré. Eh bien, quand ils sont venus, ils ont demandé quelle inspiration vous voulez. On a dit, écoutez, on veut l'inspiration la plus panafricaine possible. Et ce qui apparaissait, c'était la case ronde, qu'on retrouve pratiquement partout en Afrique. Je dis, mais écoute, le rond, c'est difficile. Mm-hmm. On perd énormément d'espace. Je dis, mais c'est ce qu'on veut. Est-ce que vous avez un exemple de circularité monumentale? Écoutez, le Grand Zimbabwe.
Alors, c'est quoi ça?
Le Great Zimbabwe, c'est au Zimbabwe, ce grand édifice circulaire qu'on n'avait jamais voulu attribuer aux Africains, mais qui avait été fait par les Africains et qui a donné son nom au pays.
Et qui avait été attribué à qui?
Quand les Boers sont arrivés, ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est pas possible, les Africains ne peuvent pas faire ça. Il y a eu ça, et puis la troisième inspiration, c'est l'impluvium, la case à impluvium de Basse-Casamance. C'est toute une maison, dans une seule grande case, il y a juste une petite porte comme ça, pour entrer. Alors comment on fait pour amener la lumière? Ils ont inversé le toit. Ça permet d'amener la lumière du jour dans la maison, parce que dans cette maison-là, il y a les chambres, il y a les greniers, il y a les parcs à bestiaux, il y a les cuisines, tout est dans la maison. Donc ça, on inverse le toit, ça amène la lumière du jour, et puis ça permet aussi de collecter l'eau, si on veut la garder. Voilà, donc ce sont les trois inspirations de ce musée, et c'est ce que vous avez dans ce plan.
Alors, acte 1 de cette conversation en sol majeur, je vous propose de rejoindre vos confortables canapés, juste pendant 10 minutes, un quart d'heure. Oui, vous avez besoin de votre portable, bah oui. Que seriez-vous sans votre portable?
Je suis une culture de l'oralité, mais je peux m'en passer.
Un petit coup d'eau. On va se mettre ici, juste en face de la photo de Macky Sall, regardez.
Mais je vous ai pas offert un café.
Vous m'avez pas offert un café?
Je vous en offre un.
Ah, je dis pas non. Alors, avec un petit sucre, le petit café de midi. Amadi Bokoum, vous qui avez été directeur du patrimoine culturel du Sénégal de 2001 à 2015, est-ce qu'on aurait pu imaginer, avant de déambuler dans ce musée, c'est un peu la carotte de cette conversation, est-ce qu'on aurait pu imaginer il y a 50 ans voir un film culte comme L'aventure ambiguë de Shir Hamidou Kane ici, dans ce musée des civilisations noires de Dakar? Réponse après ce petit extrait.
Un petit détail d'abord, je suis tellement heureux qu'on m'ait appelé Hamadi Bokoum.
Hamadi, c'est le H qui vous a
absolument
ravi.
Absolument, je suis ravi parce que mes amis français m'appellent Hamadi.
Mais oui, mais vous ne savez pas à qui vous parlez.
Tu viens de chez les Blancs de Paris? Je l'ai vu à ta valise.
Oui. Ils ne veulent pas m'écouter. Ils ne veulent pas savoir la vérité. Parce que ce qui se passe chez les Blancs, ça va se passer ici maintenant, avec tout ça. Tu sais ce qui se passe chez les Blancs?
Il s'y passe beaucoup de choses.
Alors, tu ne sais pas? Les Blancs, moi j'ai travaillé chez eux. Et je sais, ils ne savent plus prier. Alors, ils passent leur temps à se fabriquer des coquilles pour s'enfermer, se protéger. Des coquilles de pierre, de fer, de ciment, de plastique. Ces coquilles se resserrent autour d'eux petit à petit. Ils ne se rendent même pas compte. Mais moi, je l'ai bien vu. C'est pour ça que j'ai filé. Les coquilles se resserrent. Bientôt, ils ne pourront plus bouger. Ils seront prisonniers. Ils deviendront eux-mêmes. Pierre, ciment, plastique. Parce que Dieu leur aura repris leurs âmes. Et à nous aussi, il nous reprendra nos âmes. Nous enfermera dans du fer, du plastique. Parce que nous ne prions pas assez. Il faut prier.
Ah, comme arbre à palabre.
Au pied du baobab de 12 mètres, hein, si je plonge mon regard jusqu'aux racines de ce plafond du musée des civilisations noires, donc au pied de ce baobab qui nous accueille dans ce musée, il faut nous dire, Hamadi Bokoum, le sens de cette présence, c'est-à-dire celle du film de Shir Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, dont on vient d'entendre un extrait. Et c'est une idée, je précise quand même pour la belle parenthèse, de Gorée Festival et de son président, le réalisateur Djora Maka.
C'est très complexe, parce que l'aventure ambiguë est très très complexe. Moi, je retiens de l'aventure ambiguë comme ça, en réfléchissant. L'instant est le lit du flot de ma pensée. C'était juste avant que le fou ne mette fin à l'aventure
de Samba Diallo.
De Samba Diallo, qui n'a pas pu réaliser la synthèse.
Entre le monde des Diallobés, le monde musulman, la culture première et le monde des Blancs.
Absolument. On aurait pu penser que Cher a démissionné. Je ne peux plus avancer, j'arrête, je le tue. C'est la façon la plus simple de régler l'affaire. Mais en réalité, je pense qu'il ne l'a pas tué. Il l'a mis en hibernation.
D'ailleurs, il l'a ressuscité dans le roman qui a suivi.
Absolument. Et là, la vie reprend. Et dans cette vie qui reprend, dans cette Afrique qui renaît, la culture occupe un rôle essentiel. Et vous verrez là où il y aura la réconciliation entre ce musée et Samba Diallo. C'est la galerie consacrée à l'appropriation africaine des religions abrahamiques.
Ah ! Alors là, je donne rendez-vous aux auditeurs dans quelques instants.
C'est parce que c'est fondamental.
Justement, quand je vous écoute, Hamadi Boukoum, je me demande si, quand vous vous baladez dans ce musée aujourd'hui, qui vient d'être inauguré récemment, est-ce que vous avez l'impression de vous balader dans votre propre histoire ?
Très honnêtement, oui. Parce que quand on a commencé à penser ce musée, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que ce musée, il n'est pas sénégalais, il n'est pas africain, il n'est pas de la diaspora, il est des civilisations noires dans le temps du monde, c'est qu'il est fondamentalement métis. La deuxième chose, c'est ce qu'il ne devrait pas être.
Il y avait des pièges à éviter.
Absolument. Le premier, c'est l'ethnologie. Parce que les premiers musées en Afrique ont été édifiés pendant la période coloniale. Et on a continué avec. C'était des musées ethnographiques. L'ethnographie, c'est quoi ? C'est l'étude de l'autre. C'est surtout l'Afrique subalterne qui n'est pas maîtresse de son destin, qui est exploitée, humiliée.
Autre piège à éviter ?
Le chromatisme.
Quand le
chromatisme.
Chromatisme.
Quand on dit musée des civilisations noires, on pense que c'est le musée du noir. Ici, le noir n'est pas essentialisé, il est historicisé. C'est le noir dans le temps du monde. Et cette civilisation, elle va de Toumaï, notre ancêtre commun, 7 millions d'années, à la production contemporaine. Et la troisième chose qu'on a retenue, c'est qu'on n'a pas envie de construire un musée subalterne. Un musée subalterne au sens où on se fixe un modèle de musée. Nous pensons que nous ne sommes d'aucune école et que nous voulons construire notre propre école.
Quoi les critères de cette école alors ? Il est aux normes internationales ce musée déjà d'une part.
Oui, c'est-à-dire que techniquement on est aux normes, culturellement nous sommes des marrons. Yes.
Kézako.
Des marrons, c'est-à-dire que par exemple nous avons décidé que nous n'aurons pas d'exposition dite permanente. Parce que nous pensons que ce serait extrêmement dangereux et réducteur de fossiliser les civilisations noires dans le cadre d'une exposition permanente. Donc pour nous, la chose à faire, c'est de bouger. C'est-à-dire, on fait des expositions et on les renouvelle constamment. On est dans le mouvement. Bon, d'une certaine manière, on marche.
Merci Hamadi Boukoum. Alors je reviens sur ma question précédente. Est-ce que quand vous vous baladez dans ce musée, vous avez l'impression de vous promener dans votre propre histoire ? Vous avez dit un grand oui. Vous le métis, bah, c'est à vous de passer à table avec une première question en sol majeur.
Pouvez-vous me décrire la maison de votre enfance ?
Question, maison, belle question pour l'archéologue.
Oui, parce qu'elle est polysémique, la maison de mon enfance. Il y a Dakar, il y a le village. Dakar, c'était le village en miniature. Bon, parce que mes parents font partie des premiers ressortissants de mon village à avoir eu une maison dans la capitale. Conséquence, tout ce qui venait du village était chez nous. J'avais compté à l'époque jusqu'à 52 personnes qui vivaient chez nous. Oui. Et quand mon père a mis la porte en fer forgé, il y a eu un message qui est parti au village comme quoi mon père a fermé la maison.
Ce qui était vrai ou pas ?
C'était vrai. C'était le règlement. Il fallait mettre une porte en fer forgé.
Mais ça a été interprété au village ?
Ben, ça a été interprété comme une fermeture. Et mon grand-père a envoyé une missive à mon père pour lui dire « Tu enlèves cette porte ou je viens l'enlever moi-même. » Du coup, la porte a été démontée. Il n'y a jamais plus eu de porte chez nous.
C'était porte ouverte.
C'était porte.
C'est le cas de le dire.
Voilà.
Vous y avez grandi. Dans ce village, c'est Canel. Hein. Vous n'avez pas prononcé son nom, Hamadi Boukoum. Voilà, vous y avez grandi de 7 à 11 ans. Hein.
Voilà.
Est-ce que, là je pense que ça, la question intéresse Dakar, est-ce que le petit peul que vous êtes à ce moment-là arrive à, ou met du temps plutôt à s'ouvrir au monde wolophone ?
Du temps, non, parce que très tôt j'ai été plongé dans ce monde-là. C'est vrai que dans la maison, on parlait exclusivement peul. Parce que, bon, on est en situation de minorité. Mais dès qu'on sort de la maison, on est dans l'univers wolof. En réalité, je suis peul, mais d'une certaine manière de culture wolof, comme tous les Sénégalais. À l'époque, chez mon père, je veux dire, tout le monde parlait peul. Aujourd'hui, chez moi, mes enfants, certains de mes enfants ne parlent pas peul. Je pense que c'est un recul.
Je sais que la généalogie, c'est quelque chose d'important pour vous, Hamadi Boukoum. On va dire un petit mot de ce cher papa, un papa fonctionnaire dans l'administration sénégalaise, d'une part, mais aussi et surtout dans votre vie, dans votre parcours intellectuel et universitaire. Un papa, j'ai cru comprendre, progressiste.
Ah oui, je pense que je dois énormément de choses à mon père. Bon, le premier frigo à pétrole de notre famille a été acheté par mon père le jour de ma naissance.
Vous avez l'âge du frigo à pétrole.
Absolument. Bon, c'était utile, mais surtout quand j'ai commencé à grandir, mon père a été quelqu'un d'avenant.
Non, mais il a été déterminant dans votre parcours universitaire.
C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que dans mon parcours, par exemple, moi, quand j'ai eu mon BEPC, pour des raisons, bon, disons politiques, on a décidé qu'il fallait laisser l'école bourgeoise, qu'il fallait créer l'école du peuple. Mon père était désespéré. Quand je lui dis que je n'allais pas dans la meilleure école qu'il avait choisie pour moi.
Vous vouliez faire la révolution?
Bon, on pensait qu'on pouvait faire ça. Voilà, j'ai abandonné l'école comme ça. Et puis mon père m'a dit, écoute, tu es libre, mais bon, on verra ce que ça va donner. On a créé une école parallèle où on mettait tout ce qui était exclu par l'école publique ou l'école privée. Et ça marche toujours jusqu'à présent. Et j'ai fait 3 ans dans cette école-là et j'ai eu mon bac dès le premier coup. Et maintenant, le problème, c'est que avec les idées que j'avais et le standing que j'avais, c'était différent. Par exemple, tous les matins, j'étais déposé à la fac par un véhicule SO. À l'époque, service officiel. Mais mes camarades me regardaient avec des yeux. Attends, celui-là, il n'est pas des nôtres.
Vous étiez un aristo avec des velléités anarchistes.
Bon, voilà. Et puis, à partir de ce moment, j'ai dit à papa, non, je ne veux plus être déposé par le véhicule officiel.
Non, mais pour synthétiser, quel a été le geste fondamental de votre père?
Le geste fondamental maintenant, c'est que mon père n'a jamais accepté que je sacrifie mon cursus pour venir à son aide. Je vous ai dit, jusqu'à 52 personnes vivaient chez nous. Pour vous donner une idée, par exemple, le repas de midi, c'était 10 kilos de riz. Mais à chaque fois que j'ai dit à mon père, j'arrête les études pour prendre du travail, venez là. Il m'a dit non. Il faut aller jusqu'au bout de votre aventure. Il m'a même dit une fois, si tu décidais d'être un voleur, il faut être le meilleur des voleurs.
Ça, c'est du papa. Hein?
Voilà. Et quand j'ai fait ma thèse, je suis revenu avec plein de cadeaux. Bon, j'ai acheté des choses. Comme tous les petits Africains qui rentraient, je suis passé à Tati, j'ai acheté plein de choses. Il m'a dit, bon, la seule chose qui m'intéresse, c'est ta thèse. Je lui ai offert la thèse.
C'est presque le nouveau Coran. Bon, on y reviendra sur cette thèse d'ailleurs, Hamadi Boukoum. Mmh. Mais le goût de l'archéologie, parce qu'il faut qu'on avance malgré tout dans ce portrait en sol majeur autour de vous, ici dans ce musée des civilisations noires de Dakar, il démarre apparemment assez tardivement, d'après ce que j'ai compris. Comment est-ce que vous comprenez que cette discipline vous intéresse, ou pour aller au cœur de la question, sur quel site vous avez ce qu'on peut appeler la révélation?
Ce qui s'est passé pour moi, c'est que il y a eu un homme déterminant. Il est malheureusement plus parmi nous, Ibn Diagne. Il a commencé à nous sortir de la ville pour nous emmener sur le terrain et à nous montrer qu'à partir des cailloux, qu'à partir des tessons de poterie, qu'à partir des datations, on pouvait reconstituer ce qui s'est passé 5000 ans, 10 000 ans, etc. avant nous. Donc, en un mot, qu'on pouvait faire parler les artefacts. Et ça m'a beaucoup intéressé. Ça a été un premier déclic. Mais le second déclic, je pense, le plus important, c'est que dans la même période, on a appris à découvrir Cheikhanta Diop, qui était interdit de fait d'enseignement à l'Université de Dakar.
Pour quelle raison?
Bon, je pense plus politique qu'intellectuelle. Mais politiquement, bon, comme c'était un opposant, on lui avait opposé des subterfuges pour qu'il ne puisse pas enseigner à Dakar. Et on fait partie de ses premiers étudiants dakarois. Et là, vraiment, ça m'a subjugué parce que, bon, comme tout gauchiste, on a pensé qu'on pouvait nous opposer. On a fini par nous rendre parce que c'était un esprit extrêmement puissant, mais surtout très généreux.
Justement, sur un plateau, on va demander au ciel de Dakar de nous faire descendre pour RFI la voix de Chiranta Diop. Vous êtes d'accord ?
Oui, c'est une très bonne idée.
Et puis après la voix de Chiranta Diop, vous allez nous emmener déambuler à Paris.
Ah oui, si vous voulez. Parce que...
Peut-être on va rester à Dakar en même temps. On peut parler de Paris tout en restant à Dakar, en déambulant dans ce musée des civilisations noires. On y va.
Si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est le... l'adaptation du grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. La théorie monogénétique montre que puisque la souche humaine est commune, que toute l'espèce humaine a les mêmes capacités intellectuelles, qu'elle soit noire, blanche ou jaune. Je ne suis pas en train de montrer, par exemple, que le noir est supérieur au blanc. Ce serait faux. Toutes les races ont les mêmes capacités intellectuelles.
Sol majeur en immersion.
Je vous en prie. Merci, Hamadi. Combien de mètres carrés ce musée des civilisations noires ?
14 000 mètres carrés.
Monstrueux.
Non, non, c'est juste taille moyenne de l'Afrique.
Oui, c'est ça.
L'Afrique est massive.
À gauche, à droite
C'est valable les deux. Bon, donc là, c'est les réserves, en fait. On a à peu près 1000 mètres carrés de réserve. Et dans chaque salle, on peut décider de la température et de l'humidité. Parce qu'on ne conserve pas les objets de la même manière. Les cuirs, les bois, les métaux, les objets composites ne se conservent pas de la même manière. Voilà. Et on a décidé d'avoir un ciment totalement blanc, nu, très toxique pour les insectes.
Moi, je veux du fer, rien que du fer. Parce qu'effectivement, vous nous expliquiez, Hamadi Bokoum, que vous avez fait partie finalement de la première génération d'étudiants qui a eu la chance d'avoir Chiranta Diop comme enseignant. Mmh. Et je crois savoir qu'il vous a un petit peu ouvert le troisième œil, si j'ose dire, notamment sur la question du fer en Afrique.
Oui, non, c'est exact. C'est-à-dire que, j'avais pu faire ma maîtrise dans de très très bonnes conditions, pour ne pas dire que j'étais modestement le major. Donc j'ai été à Paris, je me suis... avant d'aller, je l'ai vu. Il m'a dit, écoute, sur la métallurgie, il y a des choses à faire. Parce que je viens de dater des fourneaux du Niger. Pour le moment, l'inventeur, c'est-à-dire l'archéologue qui a fait la recherche, ne veut pas publier ses résultats. Ça paraît tellement décalé par rapport à ce qu'on disait jusqu'à présent.
Parce à savoir.
À l'époque, on disait que le fer est venu en Afrique par les Berbères et que ça datait du 6e siècle à peu près après Jésus-Christ. Et ces gens avaient trouvé des fourneaux qui dataient de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et c'était des fourneaux. Et Cheikh me dit, écoute, il y a des choses à faire et si tu veux aller dans cette direction, il y a vraiment des choses à faire. Donc voilà, je me suis lancé dans l'affaire. Et puis voilà, j'ai fait mes fouilles dans la vallée du fleuve Sénégal. Mais bon, le Sénégal n'est pas un pays ancien de production. Mais c'était intéressant parce que déjà, pour ma thèse, on passait de pratiquement 800 après Jésus-Christ à 200 ans avant Jésus-Christ. On avait gagné un millénaire d'ancienneté. Aujourd'hui, pour le Sénégal, on en est à 1000 avant Jésus-Christ. Et cette date 1000 avant Jésus-Christ, elle est pratiquement constante sur toute l'Afrique. Et dans certaines zones exceptionnelles, comme le Niger, le Nigeria, et maintenant la Centrafrique et probablement bientôt le Cameroun, on est à 2500 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand les Africains produisaient du fer, la plupart de l'humanité était à l'âge de la pierre.
Et alors, comment le musée des civilisations noires de Dakar raconte cette histoire de la présence du fer en Afrique?
On la raconte d'abord en commençant par cette machine à produire du fer, ce qu'on appelle un fourneau.
Magnifique fourneau. Le fourneau, il a quelle forme déjà?
Mais il a une forme tronconique. Donc, il est évasé vers le bas. Ensuite, il monte en filon.
Il fait combien à peu près de...
Bon, celui-là n'est pas très, très grand. Il fait à peu près 1,40 m. Mais quand vous allez au Burkina, dans le pays du Yatenga, on a des fourneaux qui font plus de 6 mètres. Et ce qui est intéressant dans la métallurgie africaine, c'est que la plupart de ces fourneaux fonctionnaient en induction naturelle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir des soufflets pour les faire marcher. Quand ils posent le fourneau, ils calculent la direction du vent et ils ferment la partie opposée. Ce qui fait que quand le vent entre dans le fourneau, il n'a qu'une possibilité, c'est de remonter. C'est ce qu'on appelle l'effet de cheminée.
Alors en tout cas, au mur, vous avez installé des cartes peu pédagogiques.
Qui explique tout ça.
Ça c'est quoi ça? Ces briques là?
C'est la porte du retour.
C'est pas possible. La porte du retour, il faut nous expliquer là.
Voilà, ça c'est Gomez, un Cubain, qui a fait cette installation, qui a d'ailleurs fait le tour du monde.
Comment vous la décririez cette installation? Qui s'appelle comment d'ailleurs?
Écoute, c'est composé de bric-à-brac, d'un morceau de conteneur, de barrique, de tout élément, de subordination. Parce qu'à Gorée, on a la porte du voyage sans retour.
Quel sens esthétiquement elle a cette installation de porte de non-retour faite à base de briques de toutes les couleurs?
Diego pense qu'on a sorti de l'Afrique beaucoup de choses, qu'il est impossible de reconstituer dans un ordre cohérent. Et quand il est venu ici, il nous a dit, écoutez, vous avez votre porte du voyage sans retour. Ça, c'est notre porte du retour et elle est blindée.
Elle est blindée.
Voilà.
On se rapproche de Samba Diallo ?
Oui, on va remonter.
On passe en même temps devant une galerie photographique de tous les grands hommes qui ont
qui
fait
n'est pas encore fini,
parce l'histoire, que nous, l'histoire du monde noir.
Au hasard, Kwame Nkrumah, Martin Luther King, Mandela, Thomas Sankara, espoir assassiné, le plus doué de sa génération, Barack Obama. Bon, ils ne sont pas tous là, mais ils seront là. Et c'est toute l'Afrique qui sera présente. Les Ben Barka et tous les autres vont venir. Tous ces Africains qui sont battus et qu'on a voulu cacher, nous, on va les remettre là. Et quand on va arriver au bout du projet, il y aura des codes-barres sur chaque photo. Et les personnes qui seront là, parce que le Wi-Fi du musée sera intégral, pourront, avec leur smartphone, récupérer l'information sur chacun d'entre eux.
Magnifique. Alors, allons voir Samba Diallo.
Attendez avant de voir Samba Diallo. Il y a quelque chose de très important pour le peuple que je vais vous montrer ici.
La petite fibre régionaliste.
Non, pas tout à fait. Ça, ce sont les tenues des chasseurs du Mandé. Un chasseur, c'est par définition un tueur. Mais la charte du Mandé, la charte des chasseurs du Mandé, qui est différente de la charte du Mandé, a 7 articles. Et le premier article dit que toute vie humaine est une vie. Ce qui fait que quand un Africain fait des incantations avant de tuer un animal ou avant d'abattre un arbre, ce n'est pas de la superstition, c'est le respect de la vie.
C'est un acte civique.
Oui, et nous on n'a jamais fait des trophées. Partout en Afrique, on n'a jamais fait des trophées. On n'a vraiment jamais tué pour tuer. On ne va pas faire souffrir un cerf pendant des heures et des heures et des heures avant de l'achever et le découper pour les chiens. Nous, quand on tue, c'est parce qu'on doit vraiment tuer.
Est-ce que vous pourriez nous décrire quand même ces costumes accrochés au mur? Là, il y en a trois.
C'est du bogolan, c'est du tissu traditionnel. Et puis au-dessus, il y a tous les talismans, les cornes et autres qui sont censés protéger le chasseur. Parce que l'animal qu'on veut tuer a aussi de l'énergie. Il peut vous atteindre mystiquement. Mais ce qui est incroyable aujourd'hui dans ce Mali contemporain, c'est que les chasseurs d'oiseaux sont devenus pratiquement des bandes de criminels contre des peuls. C'est vrai qu'il y a des peuls égarés dans le djihadisme, mais ça ne doit pas condamner toute une communauté. Et aujourd'hui, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, les chasseurs sont transformés en bandes armées qui massacrent des communautés isolées.
Bon, alors, on va aller se rapprocher de ce point fort de votre musée des civilisations noires de Dakar, Hamadi, qui concerne l'appropriation africaine des religions abrahamiques à la sauce sénégalaise.
Les barbus n'ont aucune possibilité chez nous.
Vous avez la solution contre les barbus?
C'est l'islam soufi.
Un petit coup d'ascenseur.
Ce qui est intéressant dans l'islam soufi, c'est que c'est un islam très intellectuel. On réfléchit, on interprète, on adapte.
Les intégristes n'aiment pas ça, hein, la réflexion très intellectuelle.
C'est pas bon de réfléchir pour eux. Et nous, on réfléchit beaucoup dans l'islam soufi. Voilà, donc là, c'est l'appropriation africaine des religions abrahamiques. En fait, la maîtrise de l'alphabet arabe, de la langue arabe, a permis tôt à des intellectuels, pas seulement du Sénégal, mais on connaît Tombouctou, on connaît tout ce qui s'est passé là-bas, on connaît Ahmed Baba, ces grands intellectuels, donc d'utiliser l'alphabet arabe pour raconter notre histoire, mais aussi faire des productions intellectuelles, des poésies, des livres qui sont vraiment exceptionnels. Et je pense que ça n'a jamais été présenté comme ça dans nos musées, aussi bien durant la période coloniale que durant la période contemporaine.
Comme ça, c'est-à-dire?
Comme ça, c'est-à-dire que montrer que l'islam, le christianisme, le judaïsme font partie de nos cultures.
Alors justement, je vois que accroché au mur, comme des tables de la loi, il y a des versets coraniques.
Oui, des versets coraniques, mais j'aimerais bien parler de ça. Zour al-Basatim, c'est l'histoire des Noirs qui a été écrite par un certain Cheikh Moussa Camara en deux volumes et où il explique tout.
En 1924.
Oui.
Il y a son manuscrit, là.
Qu'on n'a pas encore fini de traduire, malheureusement.
Il y a une histoire de sabre d'ailleurs qui
c'est
appartient à votre généalogie, il me semble.
Oui,
c'est
ça,
c'est le sabre d'Elajomar.
Elajomar, bon, écoutez, c'est ce grand monsieur qui a combattu quand même. En fait, c'était plus un résistant qu'un djihadiste. Il est du Fouta. Il s'est rendu compte qu'il était impossible de conserver le Fouta parce que les Français étaient bien implantés à Saint-Louis. Il a dit aux gars, si nous voulons sauver nos valeurs, nos traditions, notre culture et notre religion, il faut aller conquérir d'autres terres. Ce qu'il a essayé de faire, mais ils ne l'ont pas laissé faire. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont trouvé là-bas, ils l'ont battu, et voilà.
Mais alors, quel lien avec votre ancêtre, votre un de vos aïeux?
Voilà, moi, il était dans le... Il avait suivi le Fergo Omar, il est parti avec Elijah Omar, donc dans ce combat où, en fait, on fait la conquête, on essaie de s'installer, on avance, etc. Bon, donc, il est mort là-bas. Mon aïeul avait 14 ans quand son père est mort. Il avait 14 ans et il était le seul survivant mâle de notre famille. Alors donc, naturellement, il s'est marié très tôt. Et maintenant, on est plus de 400.
Voilà, et la lignée a survécu.
La lignée a survécu. Et ça, c'est le sabre de Elijah Omar qui avait été capturé par Lui Achenar.
Donc Elijah Omar, 1796-1864. Alors il paraît qu'il y a une œuvre à laquelle vous tenez beaucoup ici, c'est l'œuvre d'Abdoulaye Konaté, Non au djihad à Tombouctou.
On la verra là-bas, mais c'est intéressant de lire des choses ici. C'est-à-dire que cet islam soufi, il est vraiment puissant. Ici, par exemple, le fondateur du mouridisme, qui est là, que vous voyez.
C'est une photographie en noir et blanc.
En noir et blanc de Cheikh Amadou Bamba, le fondateur du mouridisme, qui est d'ailleurs la seule confrérie musulmane, à ma connaissance, créée par un noir. Alors un jour, le gouverneur l'a convoqué à Saint-Louis et lui a posé 15 questions. Et à ces 15 questions, il a répondu, c'est très amusant.
Alors, quand vous dites question 4, en fait, ce sont ce que j'appelle moi des tables de la loi,
oui,
qui sont accrochées au mur, oui, comme ça, les unes.
En fait, c'est une installation que nous avons réalisée.
Sur des tablettes de bois.
Sur des tablettes de bois, en fait, qu'on utilise pour apprendre le Coran chez nous.
Et ce sont les réponses, donc.
Voilà, c'est les questions et les réponses. Je sais pas moi, on prend n'importe laquelle. Par exemple, question 2 et 3. En quelle année est né le fondateur initial de la Mouridia et quel fut son lieu de naissance? Il répond, à chaque fois qu'un musulman voit le jour dans n'importe quel pays musulman, la Mouridia vient de naître dans cet endroit.
Belle réponse.
Et quand ils en ont fini, ils disent, ce type-là, il faut le virer. Ils l'ont exilé au Gabon. Là, c'est sur l'église aussi. Donc,
ouais,
on est en train de... En fait, le musée il évolue. Hein. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Mais l'idée aussi, c'est vraiment de promouvoir le dialogue des religions. Voilà, les images qui passent ici, c'est le voyage du pape Jean-Paul II.
En Afrique.
Au Sénégal. Bon, on va aller voir Abdoulaye Kamato.
Un peu de sample dans les veines de RFI avec Baba Amal, câliné par notre invité Amadi Bokoum, qui recevait il y a peu en sol majeur dans son musée des civilisations noires de Dakar, avec à l'horizon de notre déambulation dans ce musée, l'atelier de déberlinisation. La conférence de Berlin, donc vue par Achille Mbembe, va nous accompagner.
La mentalité de Berlin, c'est de dire... On va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors, il faut bien dire qu'en Berlin, les frontières existaient dans l'Afrique précoloniale. Mais il faut préciser tout de suite que ces frontières précoloniales avaient très peu à voir avec l'idée, disons, moderne de la frontière, qui est au fond une invention récente. D'une part parce que la frontière ne constituait jamais une limite infranchissable. La frontière était en général une zone de négociation et de marchandage. Elle était en fait un espace de mixité et de rencontre, et jamais une ligne de séparation. L'institution frontalière avait pour fonction principale de tisser des liens.
F comme frontière.
Ah, oh, monsieur ne mange pas ici. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est la mondialisation de la négritude.
C'est-à-dire?
Les très négrières, arabes et musulmanes. Vous savez, si vous allez aux États-Unis, dans les Caraïbes et tout ça, il y a plein de noirs, on les voit, ils sont visibles. Dans les pays arabes, on voit très peu de noirs. Et pourtant, la traite négrière a été très importante. Mais parce que là-bas, on castrait les hommes.
Pour ça, qu'ils ne se reproduisent pas.
Voilà. Donc ça se dissout. Et il y a une installation très intéressante qui s'appelle Chromatique. Toutes celles qui veulent se dépigmenter, on leur a offert les produits. Il y a des produits, ils sont là.
Vous leur offrez?
Oui, c'est offert. C'est gratuit.
C'est cynisme, c'est humour à 250 degrés.
Je ne sais pas.
Non, c'est le musée des civilisations noires qui offre des produits de dépigmentation. Vous voilà. Manquez pas d'humour.
Mais oui, et puis c'est en public, hein, il faut le faire quand même publiquement.
C'est pas peine de se cacher, quoi.
Voilà. Et ça, c'est une œuvre magistrale de Philippe Dodard. C'est le directeur de l'Institut des Beaux-Arts de Haïti. Ça s'appelle Mémoire noire en mouvement. Ça part de la captivité jusqu'à la libération. Voilà, tout ça, l'ouverture. Donc, quand on l'a capturé, il leur a dit, écoutez, vous avez coupé la tête, mais les racines sont profondes.
Donc, c'est son portrait et le corps, en fait, se prolonge par des racines.
Voilà. Avant de vous montrer, non au djihad, on va commencer par le laboratoire de déberlinisation.
Ah, ce fameux atelier de déberlinisation.
Déberlinisation, parce qu'en 1884-85, Bismarck a réuni tout le Gotha européen. Et on a décidé de couper l'Afrique en petits morceaux et de la mettre en cage. C'est Berlin, cette conférence de Berlin qui a permis aux puissances occidentales de ne pas s'affronter en Afrique et de se partager le gâteau. Donc l'artiste propose de mettre Berlin à feu. Pour le moment, il y a certains brins d'allumettes qui ont déjà brûlé.
Alors oui, mais vous dites ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un cercle de sable dans lesquelles sont plantées des gigantesques allumettes qui, pour certaines, ont brûlé.
Oui. Mais Berlin est toujours là.
Et Berlin est représenté par un cube.
Oui, un cube où il y a la carte de l'Afrique enfermée. Donc, le travail n'est pas terminé là. Donc, la décolonisation, ce n'est pas terminé. L'Union africaine, ce n'est pas terminé. Et il faut qu'on règle cette question-là si on veut une Afrique émergente.
Oui. Et cette question des frontières fait que vous pouvez dire « je ne me sens pas sénégalais aujourd'hui ».
Totalement. Moi, je ne me sens pas sénégalais. Vraiment, je me sens africain, même si parfois on sent des difficultés quand on est ailleurs. Mais je me sens absolument pas sénégalais. Donc,
je ne comprends pas pourquoi en même temps. Il y a une spécificité du Sénégal, il y a une culture, une identité.
Oui, mais par exemple, quand je prends la culture Peul, c'est de Dakar à Djibouti. Partout, je peux communiquer. Si on raisonnait en termes simplement de continuité culturelle, il y aurait moins de 5 frontières en Afrique. Et autour de chacune des frontières, les Africains ont construit ce qu'on appelle la parenté plaisante pour dédramatiser les conflits. Il faut qu'on retourne à ça. Et le rôle de la culture, c'est de revisiter ces continuités culturelles et de montrer aux Africains, surtout aux plus jeunes, que ce qui les unit est autrement plus important que ce qui les désunit. Et que ces frontières nées de la colonisation qui ont produit les ivoirités, les sénégalités et autres mensonges ne sont pas pour le bonheur de l'Afrique.
Je suis contente d'avoir vu cet atelier de déberlinisation. On n'a pas dit le nom de l'artiste qui a signé cette œuvre.
C'est Mansour Siss. C'est un Sénégalais. Mais il vit à Berlin.
Bien
c'est
placé,
pour ça qu'il a informé. Ça, c'est non au djihad à Tombouctou.
Ouh là là, mais ça c'est une... C'est une tenture assez grande.
C'est des teintures, c'est du textile. Les Maliens sont vraiment très très experts en teinture avec des pigments fabriqués sur place. Avec un tissage fait à la main, extrêmement fin. Et voilà, donc il a eu le courage, quand tout le monde s'est sauvé, de dire que non, nous on n'est pas d'accord avec le djihad, et il a produit cette œuvre incroyable.
Alors, il faut nous dire en quoi elle est incroyable. Il y a représenté...
Vous avez la ville de Tombouctou, en bas.
Bleu, dans des bleus nuits.
Le bleu des Touaregs, il est très beau.
Bleu des Touaregs.
Oui. Parce que tous les Touaregs ne sont pas djihadistes. Tous les peuples ne sont pas djihadistes, tous les Moussis ne sont pas djihadistes. Donc, il ne faut pas que quelques écervelés condamnent toute une communauté. Donc, il est resté dans le bleu en respectant, bon, ça c'est le choix de l'artiste, mais surtout le sabre là-bas.
Donc, en haut le de sabre, cette ceinture.
Il y a ce sabre maléfique des djihadistes qu'il a complètement neutralisé.
De quelle manière?
Mais il l'a percé. Il est complètement cassé. Bon, il n'a plus de continuité. Il tue complètement le sabre. Dans cette cible, il n'y a plus de continuité. Il y a un trou noir au milieu de ce sabre qui ne peut plus jouer son rôle d'instrument de mort. Et je pense que c'est ce qu'il a représenté. Et en représentant ça, je pense qu'il le puise aussi dans nos cultures africaines. Vous savez, par exemple, dans les mégalithes de Sénégambie, les armes qui sont enterrées avec les morts sont aussi tuées. Elles sont pliées. Là, il ne la plie pas, il la transperce.
Alors, on parle en ce moment en pleine campagne présidentielle pour le Sénégal. Mm-hmm. Je ne sais pas si la culture s'est invitée dans cette campagne. On ne va pas se fâcher tout de suite.
Non.
Mais en tout cas, votre ministre de la Culture dit que l'une des missions de ce musée, c'est de réconcilier le monde noir avec son histoire. Mmh. Est-ce que chez vous, il y a eu un processus de réconciliation? Et si oui, est-ce qu'il est passé notamment par des lectures comme celle que vous tenez cachée derrière votre dos, là, de l'Afrique fantôme de cet anticolonialiste qu'était Michel Léris?
Oui, c'est-à-dire que réconcilier l'Afrique avec son histoire, c'est écrire l'histoire d'un point de vue africain. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par des Africains dans de nombreuses universités, qui a été fait aussi par des non-Africains, qui permet de comprendre, de mieux comprendre l'histoire africaine. Et cette histoire maintenant, il faut la vulgariser, il faut l'enseigner. Au Sénégal, on a un autre projet qui s'appelle l'Histoire générale du Sénégal, qui sera composé de 25 volumes, qui va reprendre l'histoire du pays, du paléolithique archaïque jusqu'à la production contemporaine. Et donc, ce berceau africain de l'humanité, c'est ça que nous voulons enseigner aux jeunes, pour qu'ils soient fiers, qu'ils aient une haute estime d'eux-mêmes, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'aller se noyer dans la Méditerranée pour donner un futur à l'Afrique.
En sol majeur. @rfi.fr.
Le futur de l'Afrique qui se joue désormais à Dakar, capitale intellectuelle du continent, avec ce musée des civilisations noires. Je dis ça, je dis rien. Merci à Goré Cinéma de cette belle invitation pour un En sol majeur tricoté par Tania Tsikounas, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. Et on se retrouve demain dans nos studios parisiens avec Ramatou Keïta. À demain.
Oncle Do, il a énormément donné. C'était quelqu'un de généreux par son cœur, généreux par sa curiosité.